des artistes. On n'en est pas encore là. Ce sera peut-être que si pas demandé de faire des cours de philosophie. Ils m'ont invité très gentiment. Est-ce qu'on pourrait pas aller ensemble au zoo? Je dis oui. Là, je suis à ce niveau-là, ça me valait. Suffisamment éveillé pour ça. Là, on était au zoo. Il s'y avait dit 8 jours avant pour préparer mon passage. Parce qu'on leur parlait tout le temps de ce zoo. C'est très vrai que c'est très reposant, un zoo. C'est très reposant. Et alors, il y avait la spécialité de ce zoo, c'est qu'on avait appris à certains animaux de compter. On leur disait 5 multiplié par 5. plafond par cœur un coup, sans rien comprendre. Et l'examinateur est tellement en admiration de voir que son cours a été enregistré par quelqu'un, et pas seulement par le magnétophone, mais par quelqu'un. Il est en admiration. Alors, il me dira très bien, alors que celui qui passe l'examen n'a rien compris. Et celui qui a compris, qui a un trou de mémoire, a une très mauvaise note. Mais c'est l'idiotie aussi de ponctuer les gens en fonction de leur examen. C'est vrai, ça. Il faut reconnaître. Il y a des gens qui passent admirablement les examens. Ce sont des têtes à thème. Et puis, il y a des gens qui passent très difficilement des examens parce qu'ils sont troublés. Il suffit d'être en face d'un professeur, derrière un bureau, le bureau est fait pour ça, et de mettre de la distance et intimider. Alors quand on la construit, il n'intimide plus. Mais autrement, il intimide une distance. Et le professeur sait très bien mettre des distances. Et la distance la plus classique, vous savez bien, c'est de poser une question difficile, puis de se taire. Puis on attend. Et plus le silence est long, plus il est pesant. Et plus il inhibe. C'est facile d'inhiber quelqu'un. C'est-à-dire d'arrêter tous les efforts de la mémoire. On inhibe quelqu'un. On dit, vous ne savez rien. Alors qu'il sait très bien. Mais il y a un trou. Et en fonction de ce trou, on regarde. Peut-être une injustice folle quand on fait passer des examens. Si on ne tient pas compte des remarques de celui qui connaît la personne et qui sait très bien le degré de connaissance, d'intelligence de chacun. Ça, entre hommes, on peut le faire. On peut le faire pour les autres. Parce qu'on ne connaît pas l'intérieur. Intus legere. Et tant qu'on connaît de l'extérieur, on ne peut pas savoir la différence spécifique. La propriété. En critique, on réfléchit sur ce que nous avons connu, ce que nous connaissons, et nous essayons de comprendre à partir de quelque chose que nous avons connu par nous-mêmes. Le but de la critique, c'est de voir ce qui est fondamental dans nos connaissances. Qu'est-ce qui est premier et sur lequel tout va se construire. Et distinguer le rez-de-chaussée, distinguer le premier étage, distinguer la cave. C'est une méthode aujourd'hui qui est très très connue. D'architecte qui cherche la critique de ce qu'il est, de ce qui est tout à fait enfoui dans la terre. Alors, vous voyez les couches successives de la construction. L'homme construit intérieurement quelque chose de très simple, quelque chose de plus compliqué. Et c'est vrai. Et il essaie de retrouver ce qui, en lui, est tout à fait fondamental, au-delà de toute critique. Parce que tout n'est pas critiquable dans l'intelligence humaine. Et on voit successivement les couches. Parce que le philosophe, lui, doit pouvoir défendre tout ce qu'il avance. connaissance scientifique. Qu'est-ce qui est premier dans la philosophie? Qu'est-ce qui est premier? Quelle est la pierre fondamentale de l'édifice? Quand j'ai vu toute la critique, je vais vous dire c'est ça. Quelle est la pierre fondamentale? La critique philosophique, c'est du côté de l'appréhension. Le concept d'être, c'est du côté du jugement, l'axiome de non-contradiction, et ainsi de suite. C'est du côté raisonnement, le raisonnement qui me conduit à l'être premier. Alors là, vous avez les clés de voûte de la métaphysique et de la philosophie. Et la critique est faite pour ça. Alors, on va le voir successivement. En parlant des prédicables, je parlais du concept. Les prédicables qualifient les concepts. Et parmi les concepts, il y en a qui sont tout à fait premiers. Quel est le concept le plus radical sur lequel repose tout l'édifice? Le concept de ce qui est. Il y a un concept d'être. Et le concept d'être est le concept le plus simple, le plus radical, au-delà des prédicables. Ce n'est pas un concept générique, le concept d'être. C'est un concept analogique. Et c'est parce que c'est un concept analogique qu'il est tout à fait premier, au-delà de tout genre, de toute différence spécifique. Vous voyez ? Alors, évidemment, si je m'arrête pour longtemps là-dessus, vous voyez, toute l'année, ça vaut la peine. Mais on a autre chose à faire. Selon le règlement de cette année. Il faut toujours obéir au règlement. Mais je vous dis tout de suite quelque chose de très important dans toute réflexion critique. On aboutit d'abord à ce qu'il y a de premier dans une connaissance quantitative. L'intelligence humaine saisit la nature des réalités. Une connaissance quantitative. Cette connaissance quantitative est univoque et elle implique dès son point de départ une diversité. Ce n'est pas conventionnel. Ce n'est pas conventionnel. C'est naturel. Toute intelligence humaine pour naître à à l'aspect intellectuel implique l'universel. Et l'universel se donne à moi selon ces cinq modalités des prédicables. Il y a donc un certain fondement à toute ma connaissance intellectuelle. C'est cette connaissance générique qui demande de se préciser par la connaissance spécifique et qui demande de s'enrichir par la connaissance des propriétés et des accidents. C'est la construction la plus simple de ma raison. Qu'est-ce que c'est que la raison? C'est une intelligence qui pense quantitativement par le point de vue de la recherche de la quantité. Toti Enainain cherche à préciser ce qu'elle connaît de cette manière quantitative. les cinq brigands. Ça, c'est ce qu'il y a de tout à fait premier dans ma connaissance. Et il y a une autre connaissance, beaucoup plus parfaite, qui est la connaissance qui saisit le point de vue analogique. Ce n'est plus par mode quantitatif, c'est par mode analogique. Connaître par mode analogique, c'est connaître les raisons, les rationesses. Ce n'est plus la connaissance par mode prédicable. C'est une connaissance qui se fait à partir de l'être et qui va beaucoup plus loin. C'est la connaissance philosophique. La connaissance philosophique est toujours analogique. Elle se fait à partir de l'induction qui saisit les rationnels, les raisons, ce qu'il y a d'ultime dans chaque réalité. Ce qu'il y a d'ultime dans chaque réalité, c'est ce qu'on appellera les cinq transcendentaux. Ça, c'est très important à bien saisir. Et c'est cette distinction-là qui n'a pas été respectée du tout dans la scolastique décadente. On a tout mêlé. C'est pour ça que c'est très manuel ou un livre de critique qui fait cette distinction entre la connaissance univoque et la connaissance analogique. Ça, on en parle. Mais pourquoi cette distinction? Nous avons en nous deux registres de connaissance. Saint Thomas dira, il y a en nous connaissance abstractive. Pour que l'intelligence puisse saisir, puisse s'exercer, des choses abstraites, laisse tomber tout ce qui est individuel pour abstraire et atteindre, réaliser au-dedans d'elle-même un concept univoque. Le concept univoque, c'est toujours une connaissance abstractive. Animal. La connaissance quantitative permet de classer, d'ordonner. Animal est une connaissance générique. Le genre, la saisie du genre, la saisie de la différence spécifique, l'espèce, la propriété, l'accident. Cette abstraction universelle, c'est celle qui aboutit à un concept univoque qui est générique, fondamentalement générique. dresser. Pour chacun de vous, je peux le dire. Mais il faut d'abord le dire pour moi, pour voir que c'est pas une injure. Et que c'est tout simplement une réalité. Y a rien de plus injurieux que la réalité, tu vois. Quand on veut être réaliste, on dépiste des tas de choses qui sont fausses. Alors dire vous êtes. Mais non. Le genre, c'est quelque chose de générique, quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui n'est pas très infini. C'est assez grossier. Enfin, si vous me recevez comme ça, tiens, quel est l'animal suivant qui vient? Je vois comme il est grossier ce permettre. Mais non, il vous remet dans le réel, quoi. On est un animal. Puis après, il y a la raison. Oui, mais l'animal, dans notre vie, prend beaucoup plus de place que la contemplation. Comme place. L'animal, c'est celui qui mange, c'est celui qui dort. Comptez, hein. Vous verrez tant d'heures d'animal. Et quand vous êtes fatigué, l'animal grossit. Et le genre, la différence spécifique et la raison diminuent. Et selon certaines méthodes, on est la méthode marxiste. Saisit l'animal dans l'homme. Rien du tout de la raison. Alors au bout d'un certain temps, il n'y a plus que des animaux. Et ça c'est vrai. Ils perdent le sens social. Qu'ils signent que la raison. Et que l'intelligence n'est plus là. Comme les marxistes n'ont pas fait de philosophie, ils n'ont fait qu'une dialectique marxiste, matérialiste, ils ne saisissent que ça. Alors on aboutit à des choses affolantes. On réduit l'homme à un animal supérieur. Un animal qui réalise quelque chose. Et on jauge la grandeur de l'homme en fonction de l'efficacité. Et jauger la réalité de l'homme en fonction de l'efficacité, c'est très matériel. C'est générique. Et comme on dresse les animaux de cette façon-là. Quand on vend un cheval de labour, on dit sa capacité et son efficacité. C'est la même chose. Donc la réalité profonde disparaît et on ne voit plus que l'aspect fondamental. Matériel. Il y a l'abstraction universelle et l'abstraction formelle. Saint Thomas parle des deux, sans nous dire d'où ça vient. Alors, dans l'Emmanuel thomiste, on dit abstraction formelle, abstraction fondamentale, abstraction universelle. L'abstraction universelle, c'est celle qui a comme fruit le point de vue du genre. L'abstraction formelle, c'est beaucoup plus calé. L'abstraction universelle, vous ne vous en apercevez pas. Vous n'avez pas conscience. Vous l'avez apprise. Vous avez appris l'homme, animal raisonnable. Quel moment avez-vous conscience de passer homme animal raisonnable? J'ai demandé ça à un psychanalyste. Il n'a pas su me répondre. Ah, c'est pourtant ça qui est intéressant. Si vous voulez savoir à quel moment votre intelligence est passée de homme, de pierre, le petit gosse, qui appelle tous les hommes papa. C'est vrai. Et puis à un moment donné, il distingue papa de homme. C'est un pas gigantesque. Et là, on touche à des choses très élémentaires au point de vue de notre vie intellectuelle. On sait si papa l'individu. chance à la même abstraction. Mais certaines langues se développent plus sur l'aspect générique, d'autres sur l'aspect spécifique. C'est très cru. Eh bien, l'abstraction formelle regarde le caractère spécifique. Ou plus exactement, allons plus loin, l'abstraction formelle aboutit au concept analogique. Ce qui caractérise chaque science pour passer du langage, pour passer de l'abstraction universelle que j'apprends par le langage, par la langue, à l'abstraction formelle qui est la connaissance de telle ou telle science. Il faut une nouvelle abstraction qui est consciente. Je suis conscient de donner comme définition de l'homme animal raisonnable ou de dire un être qui implique une âme et un corps. L'homme, c'est un être vivant qui implique un corps et une âme, qui implique une intelligence. Fondamentalement, au point de vue critique. première année, écoute, ne comprend rien, mais écoute. Et ça, si elle comprend quelque chose, parce que tout ce qui est intelligible, on le comprend quand même, il faut savoir pas le répéter. C'est bien évident. Dire oui, parce que c'est très astucieux, ça. Thomas d'Aquin, donner ça comme ça. Vous voyez, et on voit tout de suite la qualité d'une philosophie selon ces cinq. Toute la philosophie de Thomas d'Aquin se résume dans les cinq rationnels, les transcendentaux, ceux qui dépassent. Les transcendentaux thomistes sont objectifs, les transcendentaux kantiens sont subjectifs. Parce que Kant parle des transcendentaux en donnant une signification totalement différente. Parce que c'est Thomas d'Aquin qui a parlé de ces transcendentaux avant lui. Albert le Grand, Albert le Grand n'en donnait qu'aux quatre. La différence entre la métaphysique d'Albert le Grand et celle de Thomas d'Aquin, c'est que la ratio à liquide est propre à Thomas d'Aquin. Elle n'existe pas chez Albert le Grand. C'est très curieux. Et c'est très intéressant. Ça. Parce que ça montre que Thomas d'Aquin apporte à la métaphysique quelque chose de nouveau. Que Albert le Grand, qui était, lui, disciple d'Avicenne, n'a pas apporté. C'est Thomas d'Aquin, revenant à Aristote, qui découvre, qui est directement la conséquence de la découverte de l'être en acte, donc de la finalité. Excuse, hein, c'est un petit peu difficile pour beaucoup, mais je crois que c'est très important de comprendre ces deux modalités d'abstraction. L'abstraction universelle, celle du langage, la plus courante, on s'en aperçoit même pas. Et l'abstraction formelle, celle qui nous fait entrer dans l'aspect scientifique. Alors, pour avoir tout à fait la chose très simple, pensez à blanc, blancheur. Blanc, abstraction universelle. Blancheur, abstraction formelle. Alors vous dites blanc de blanc. Blancheur, c'est blanc de blanc. Tandis que blanc, c'est abstrait de tous les blancs, le visage, la neige. Tout ce que vous voulez, c'est blanc.